voilà. Voilà, chers amis, merci d'être venus donc pour cette deuxième conférence de l'Expo Bible d'ici de Pessac. Et donc on se réjouit d'être ensemble cet après-midi. Alors vous avez reçu une invitation pour l'Expo Bible de l'église baptiste de Pessac-Compostelle, et derrière c'est écrit Centre français de culture biblique. Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas hier soir que les Expos Bibles sont quelque chose de typiquement français. Ça a été inventé dans les années 60-70 par Pierre Weller, qui est toujours vivant. Il se trouve dans le nord de la France, dans la Somme, et il a fait la première Expo Bible, dont vous avez quelques petits morceaux qui restent encore en bas, mais la plupart a été vraiment modernisé. C'était à l'époque une expo beaucoup plus grande qui nécessitait une salle de 120-130 mètres carrés ou plus. Et ensuite c'est Theo Stalinger qui a repris cette expo Bible, et en s'en inspirant il en a fabriqué deux ou trois différentes plus petites, et c'est lui qui a eu l'idée de réduire la taille de l'expo pour pouvoir la diffuser dans des salles plus petites, et nous notamment au Pays Basque en 1980 je crois 4 ou 5 la première fois on a utilisé 15 ou 16 pardon la première fois on a utilisé l'expo de Theo Spallinger, qu'on a mis dans une petite salle à Quétari, pour ceux qui connaissent le Pays Basque, voilà. Et ensuite on a fait notre propre expo qui est toujours là-bas au Pays Basque, parce que nous avons fait une expo bilingue basque-française, et donc ça c'est pas très utile en dehors du Pays Basque. Et on a pu faire circuler cette expo dans tout le Pays Basque français, et aussi dans le nord de l'Espagne. Cette expo est allée dans plusieurs villes du nord de l'Espagne, et nous avons même eu des collaborations avec la Société Biblique Espagnole qui nous aidait aussi avec les traductions, puisqu'il y a eu des traductions de l'Évangile de Marc et ensuite du Nouveau Testament complet en langue basque, et donc c'est eux qui impriment ces traductions et qui sont venus participer à certaines expos. Et donc donc vous verrez ces choses en bas. Alors en bas vous verrez que l'expo est vraiment modernisée, elle est entièrement toute la partie expo, mais il faut lire le texte avec les illustrations. C'est entièrement fait avec Photoshop, pour ceux qui connaissent, avec des illustrations modernes. Et puis il y a plusieurs points intéressants, notamment au sujet de la Bible avec le microscope. Vous avez la Bible entière sur la table, sur la taille d'un timbre-poste, je vais arriver à dire, un timbre-poste, et ça permet de le voir en microscope, c'est sur microfilm. Et ça a été utilisé même à l'époque des persécutions, parce que je vous rappelle que pour ceux qui ont connu le siècle dernier, il y en a un certain nombre qui étaient déjà nés, eh bien il y a eu l'Empire soviétique, il y a eu le mur de Berlin, etc. Et donc la Bible était totalement interdite dans tous les pays de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, la Yougoslavie, la Hongrie, jusqu'au bout de Vladivostok et encore plus loin. Et donc, mais grâce à Dieu, des hommes courageux ont pu amener la Bible là-bas, et puis les Russes eux-mêmes, grâce à ces petites inventions, ont pu l'imprimer et faire diffuser la parole de Dieu. Et notamment, il y a toute une histoire des églises baptistes non enregistrées, que je vous invite à vous renseigner. C'est vraiment extrêmement intéressant, ce courage qu'ont eu ces croyants avant nous dans ces pays. Tout ça à cause de la Bible, et c'est le pouvoir de la Bible, la Bible qui est le livre le plus lu et le plus diffusé dans le monde. Vous verrez en bas dans l'expo qu'on est déjà à peu près 400 millions d'exemplaires dans le monde, 400 millions d'exemplaires. Alors c'est dans évidemment un grand nombre de langues, et donc c'est quelque chose de tout à fait, ça dépasse évidemment tous les best-sellers, tous les Harry Potter et tout ça, c'est même pas 50 millions, hein. Là, on est à 400 millions, hein. Donc, c'est toujours le best-seller de l'humanité. C'est lu dans toutes les langues, sous toutes les latitudes. Il y en a même une en microfilm sur la Lune, hein. Je sais pas s'il y en a une sur Mars, hein, mais on sait pas si les Martiens peuvent lire la Bible ou pas, mais bon, déjà, on va s'occuper des terriens, hein. Et donc, nous-mêmes, nous avons le privilège de lire la Bible comme ça tous les jours. Et vous verrez, hein, quand vous irez au fond vers le mur, des énormes Bibles comme ça, on les appelle in folio, c'est-à-dire c'est la taille d'une feuille de papier telle qu'elles étaient à l'époque. Et imaginez que, et puis sur une autre table un peu plus loin, vous le verrez en rouleau écrit en hébreu, hein. Alors à l'origine, ils étaient écrits sur des rouleaux de parchemin, de papyrus, et quand on avait un livre de la Bible, on était heureux, hein. Il fallait le tourner comme ça et le lire petit à petit jusqu'au bout, et puis ça valait une fortune parce que c'était copié entièrement à la main, hein. Il n'y avait pas d'imprimerie évidemment avant Gutenberg, hein. Et donc ensuite, quand il y a eu les premières Bibles, pour qu'une famille puisse en acheter une, c'était 2 ou 3 années de salaire, hein. c'était pas 1,50 €, hein. Et même il paraît qu'en bas on vous en donne si vous n'en avez pas, alors qu'est-ce qu'on peut demander de plus, hein. Eh bien, oui, nous avons un grand privilège d'avoir la parole de Dieu avec nous. Vous pouvez l'avoir dans votre téléphone, dans votre ordinateur, votre iPad, tout ce que vous voulez, mais la question c'est de la lire, de l'écouter et de la mettre en pratique. Et aujourd'hui, on va parler du grand thème de la Bible, le fondement du bonheur. Alors je vous pose la question tout simplement, est-ce que vous êtes heureux ce soir, hein? Est-ce que vous êtes heureux, hein? Eh bien, la Bible déclare être le fondement, et nous donne le fondement, l'origine, la définition du bonheur, hein? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un pays dans le monde, il y en a même deux, où le bonheur est inscrit dans la Constitution, hein? Dans la Constitution, c'est écrit que vous avez le droit d'être heureux, hein? Alors, c'est dans quel pays? Alors, il y a les États-Unis d'Amérique, hein? Alors, c'est écrit en anglais, c'est un peu subtil, « The pursuit of happiness », c'est-à-dire la poursuite du bonheur. On ne sait pas si vous l'attrapez ou pas, mais vous avez le droit constitutionnellement de le poursuivre, hein? C'est déjà bien, c'est pas dans la Constitution française, je vous fais remarquer, hein? Et puis, vous avez aussi le Bhoutan, hein? Vous connaissez le Bhoutan, hein? C'est un tout petit pays qui se trouve à côté de la Mongolie, hein? Et dans ce pays-là, eh bien, dans la Constitution aussi, il est inscrit que là, dans ce pays-là, c'est un droit et un devoir, le bonheur national. Hein, mais bon, c'est un tout petit pays, ils ne sont même pas 1 million, hein, j'espère pour eux qu'ils sont heureux. Hein. Mais voilà. Hein. Alors, nous avons un problème avec le bonheur en français, c'est que dans l'esprit du français, le bonheur est un état. Hein, et on a en français la béatitude, un état de béatitude. Je suis dans un état de béatitude. Et les Français sont très admiratifs des hindous, qui peuvent rester des heures sans bouger dans un coin, voilà. C'est pas du tout français, ça, de rester des heures sans bouger, hein. Mais c'est pas du tout ça la notion biblique du bonheur, hein. C'est pas dans la Bible, le bonheur n'est pas un état, hein. Ce n'est pas un état, c'est une action, hein. C'est quelque chose qui bouge, qui va de l'avant, qui est utile, et vous allez comprendre un petit peu plus en parcourant les Saintes Écritures. Eh bien, donc, vous avez deux mots en hébreu, hein. Toub, je ne sais pas trop le prononcer, et le deuxième, Echer. Alors, Echer, c'est plus facile, hein. Vous avez le chanteur Stéphane. Echer, vous êtes la seule à le connaître. Eh bien, ça veut dire heureux, hein, Echer, ça veut dire heureux, quelle que soit la façon de l'écrire, ça vient de l'hébreu, heureux. Hein. Et donc, et puis en grec, hein, c'est Makarios, hein, et Makarios, justement, nous donne cette notion du bonheur, c'est-à-dire un bonheur qui va de l'avant, qu'on peut traduire allez-y, vas-y, vous verrez tout à l'heure que Chouraki traduit en marche, hein, et quand vous êtes dans un stade de foot, hein, que vous soutenez les Girondins de Bordeaux contre qui ils ont joué vendredi, jeudi là, hein, Francfort, voilà, je ne sais même pas qui a gagné, hein, qui c'est qui a gagné. Bon. Mais alors si vous souteniez les Girondins de Bordeaux, qu'est-ce que vous dites? Allez, hein, allez Bordeaux, c'est ça qu'on dit ici, hein. Moi je sais pas, hein, moi je soutiens pas les Girondins de Bordeaux, hein, je vais pas vous mettre à votre place, hein. Alors allez Bordeaux, hein. Et en Italie, on dit forza, hein, qui veut dire force, vas-y, hein. Au Pays Basque on dit gora, hein, qui veut dire en haut, plus haut, plus fort, hein. Et en espagnol comment on dit déjà? Ah bah bon, voilà, allez-y, hein, voilà, voilà, hein. Et donc c'est quelque chose qui est en marche, c'est quelque chose qui est actif, c'est quelque chose qui est vivant, la définition du bonheur d'après la Bible, hein. Et vous le verrez tout de suite, là où il y a vraiment le plus de mention là-dessus, c'est évidemment dans l'enseignement de Jésus, hein, ce qu'on appelle les béatitudes, hein, mais nous allons pas voir ça tout de suite, mais déjà dans l'Ancien Testament, nous avons dans le livre des psaumes, c'est le premier mot du livre des psaumes, psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Remarquez qu'il y a trois étapes, hein, marcher, s'arrêter, s'asseoir. Hein. Et l'homme qui est heureux ou la femme qui est heureuse, c'est celle qui marche avec Dieu, celle qui va de l'avant avec Dieu. Hein. Il y a même un homme dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Comment il s'appelle? Hein, l'enfant, comment il s'appelle celui qui a marché avec Dieu 300 ans? Hein, c'est ça, Enoch. Merci, hein. Et donc il vivait plus longtemps à l'époque, évidemment de nos jours ce serait difficile, hein. Mais c'est quelque chose qui est en marche, c'est quelque chose qui va de l'avant avec le Seigneur. Le bonheur n'est pas statique, ce qui s'arrête, ce qui s'assoit, ce sont les pécheurs et les moqueurs, hein. Mais Dieu veut que nous soyons heureux et que nous allions de l'avant, hein. Également, psaume 32, si vous tournez quelques pages, nous lisons verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Hein. Heureux l'homme, hein, donc le bonheur d'avoir le pardon de ses péchés. Hein. Alors je vous pose une question, dans la société actuelle, qui est-ce qui peut pardonner vos péchés? Est-ce que la police peut pardonner vos péchés? Hein? Si vous vous faites attraper par un radar ou je ne sais quoi, vous allez voir le policier et vous lui dire oh, pardonnez-moi, hein? Qu'est-ce qu'il va vous dire le policier? Il est hors de question que je vous pardonne, vous allez payer votre amende, vous allez passer au tribunal, hein? Il n'y a pas de pardon, hein? Au tribunal c'est pareil, il n'y a pas de pardon, hein? Si vous n'avez pas payé vos impôts, est-ce qu'il y a du pardon, hein, de la part de nos très chers amis les publicains, hein? Est-ce qu'il y a du pardon, hein? Pas du tout, hein? Si vous n'avez pas payé vos impôts, ils vont vous poursuivre jusqu'au bout, hein? Eh bien c'est auprès du Seigneur seul qu'il y a le pardon. Nous sommes dans une société entièrement sans pardon, hein? Et ce dont l'homme a besoin pour être heureux, c'est de trouver le pardon, mais le pardon se trouve auprès de l'Éternel, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lit ici, psaume 34, hein, si vous tournez une page dans votre Bible, et je vais vous le lire dans la traduction Chouraki, vous allez voir, c'est un peu différent. Goûtez, 34 verset 8, verset 9, goûtez et voyez, oui, quel bien y a Yahvé, en marche le brave qui s'abrite en lui. Hein, donc, dans notre traduction Louis II, sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Mais là, c'est pas traduit heureux, c'est traduit en marche. Allez-y de l'avant. Hein. Et nous vivons dans une société où bien des gens se laissent arrêter. Hein. Ils se laissent arrêter par la tristesse, le découragement. Hein. Les gens marchaient bien et puis quelqu'un à qui ils étaient attachés est mort, ça y est, ils sont bloqués. Hein. Ce qui est très fréquent dans la société actuelle en France, hein, c'est la perte d'emploi. Hein. Quelqu'un qui vivait une vie tout à fait normale, il perd son emploi, sa vie s'arrête, il se sépare de son conjoint, il perd sa maison, etc. C'est l'arrêt. Hein. Alors que le Seigneur nous donne les moyens et nous appelle d'être en marche, d'aller de l'avant. Hein. Et ça, c'est le bonheur selon Dieu. Le bonheur, c'est d'aller de l'avant, c'est d'aller de progrès en progrès. Hein. Et on en a plein hein, dans l'Ancien Testament, on ne peut pas les faire tous. Hein. Psaume 84, versets 5 et 6, par exemple. Quand vous cherchez quelle est la bonne voie pour votre vie ou pour le chemin que le Seigneur veut vous montrer, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Hein, ils trouvent le chemin dans leur cœur et quand on marche avec Dieu, eh bien, il nous donne le chemin dans lequel on doit marcher, la façon dont on doit aller de l'avant. Alors, nous allons prendre maintenant Matthieu chapitre 5 et voir ensemble ces béatitudes de Jésus et vous allez voir à quel point les béatitudes de Jésus sont le renversement des valeurs. Les valeurs par rapport aux juifs de son époque, mais les valeurs par rapport à la société actuelle aussi. Hein. Vous allez voir que Jésus ne voit pas du tout les choses de la même façon que nous. Hein. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se soit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis, ça continue après. Hein. Alors, voilà les béatitudes de Jésus. Hein. Mais c'est pas du tout, si vous allez dans la rue interviewer les gens, ou si vous rencontrez un journaliste et que vous lui dites ces paroles. D'ailleurs, beaucoup de gens disent, mais Jésus, on peut pas le suivre. Hein. Il est trop extrémiste. Hein. Il dit que si on reçoit une gifle sur la joue droite, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein, on doit tendre l'autre. Vous vous rendez compte dans le monde actuel hein. C'est pas du tout d'actualité hein, pour les gens. Hein. Mais voilà, Jésus parle d'un autre royaume. Il parle d'une puissance supérieure et qui est capable de tout changer par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Alors, heureux les pauvres en esprit. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est pauvre en esprit? Avant, dans les traductions anciennes, c'était traduit les simples d'esprit. Hein. Alors, ça veut dire quoi, un simple d'esprit? Voilà, hein, quelqu'un dont l'intelligence est diminuée. Hein, voilà. Alors, c'est pas ça qui est écrit. Il a été écrit, bien que je connais pas mal de simples d'esprit qui sont heureux. Hein, mais la question n'est pas là. Hein. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui sont dans la pauvreté morale, spirituelle, ceux qui sont dans la réalisation que dans leur âme, il n'y a rien de bon. Hein. Hein. Alors c'est le contraire de la société actuelle. Hein. La société actuelle veut vous dire, mais non, vous êtes un être humain formidable, il faut que vous vous affirmiez, il faut que vous obligiez les autres à vous suivre, à vous obéir, que vous dominiez les autres. Mais Dieu dit, heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui ressentent leur misère morale, car le royaume des cieux est à eux. Oui, que ceux qui regrettent le mal qu'ils ont fait, ceux qui regrettent de ne pas arriver à la perfection, ceux qui sont désolés de ne pas pouvoir être à la hauteur de leurs rêves et leurs espérances, ceux-là sont heureux, car c'est la porte ouverte pour le royaume de Dieu. Le Seigneur est venu apporter un autre royaume que celui de la terre. À l'époque de Jésus, les chefs religieux se promenaient dans la rue, la tête haute, ils poussaient les gens sur leur passage pour dire, nous sommes les chefs, nous sommes les gens importants, vous devez nous suivre et nous obéir. Mais Jésus a dit, ces gens-là ne sont pas heureux. Ceux qui sont heureux sont ceux qui sont pris conscience de leur péché, de leur misère morale, et qui ont demandé le pardon du Tout-Puissant. Et puis je vous fais remarquer ce mot « heureux ». Parce que quand on est pauvre en esprit, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? Mais à se laisser aller, hein, à se dire mais je vaux pas grand chose, j'ai fait quelque chose de mal, je vais me recroqueviller dans mon coin, je vais me faire oublier. Non, le Seigneur dit lève-toi et marche, marche, va de l'avant, car le royaume des cieux est pour toi. Vous voyez que c'est une toute autre définition du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas celui qui a réussi dans la vie. Le bonheur, c'est celui qui marche, c'est celui qui va de l'avant. C'est celui qui dit pas je m'arrête, je m'apitoie sur mon sort, non, je relève la tête et je vais de l'avant. Et c'est pour ça que le suivant lui est semblable, heureux les affligés, hein, ceux qui sont dans l'affliction. Alors ce mot affligé est très fort, c'est comparable au deuil, hein, des gens qui ont connu un deuil, qui sont dans la tristesse car quelqu'un est mort. Et vous allez leur dire, hein, dans la cérémonie funèbre, vous êtes heureux, hein. Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Hein, mais c'est Jésus qui l'a dit. Hein, vous n'allez pas dire à Jésus, mais tu es fou, tu dis pas n'importe quoi. Hein, eh bien non, hein, c'est Jésus qui l'a dit, parce qu'il a dit, vous qui êtes affligés, relevez-vous, car vous serez consolés, vous obtiendrez la consolation. Et ça, c'était un grand privilège de se tourner vers Dieu pour recevoir la consolation, car dans ce monde, il y a tant de gens qui pensent qu'ils ont tout, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont pauvres, et s'ils se rendaient compte, s'ils étaient affligés, ils obtiendraient la consolation du Tout-Puissant, qui est largement supérieure à toutes les consolations de la terre. Hein. Regardons la vérité en face. Comment les gens qui nous entourent, restons en France sans aller à l'étranger, comment est-ce qu'ils se consolent quand ils vont mal? Hein? Vous êtes pas au courant? Alors il y a les psys, mais avant les psys, qu'est-ce qu'il y a?
This is a demonstration of
j'entends pas. Oui, mais comment ils se consolent? Oui, mais vous vivez pas dans le monde actuel, hein? Hein, qu'est-ce que les gens, je suis désolé, mais dans toutes nos grandes villes, hein, à Bordeaux, peut-être dans les immeubles qui sont là-bas, c'est la drogue, hein, faut pas se mentir, hein? Et oui, ces gens qui se droguent, ils font semblant que tout va bien, mais s'ils se droguent, c'est que tout va mal. Hein? Et ils cherchent dans ces drogues la consolation. Vous savez que l'argent qui sort de la drogue est supérieur à celui qui sort de l'impôt. Hein? Il ne faut pas vous faire d'illusions. Hein? On vit dans un monde où les gens souffrent profondément, et au lieu de se tourner vers Dieu, ils se tournent tourne vers la drogue. Hein. Et puis, comme on l'a dit, Bob l'a dit, les psychiatres, mais la médication, hein, c'est-à-dire les anxiolytiques, et la France, de nouveau, est championne du monde hein, de consommation de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Mais, et si vous demandez aux gens comment ça va, tout va bien. Tout va bien. Mais en fait, tout va mal. Hein. Et ces gens tiennent par des béquilles chimiques, parce que la drogue, c'est une béquille chimique aussi. Hein. Les anti et tous ces autres, il y a plein de catégories de médicaments, c'est pas ma spécialité. Hein. Mais tous ces... Et puis, se consomment, comme on l'a dit, par la télévision, ou par des loisirs et des distractions qui tournent à vide. Mais pourquoi est-ce que ces gens vont si mal et font semblant d'aller si bien? Pourquoi? Hein? Parce qu'ils ne veulent pas regarder la vérité en face et ils ne veulent pas se placer devant Dieu. Alors que celui qui est vraiment affligé, qui se tourne vers Dieu, et il aura une véritable et éternelle consolation. C'est là qu'est la vraie consolation, ce n'est pas ailleurs. Et combien nos contemporains sont de tristes contemporains, hein? Ils font semblant d'être heureux, ils achètent des tas de choses, des vêtements pour avoir l'air bien joli, bien propre, la dernière marque, et la voiture pour avoir l'air bien, tout ça, mais ça va très mal. Ça va très mal, parce qu'ils ont rejeté Dieu de leur vie. Hein? Et malheureusement, la France est un des pays où on a le plus mis Dieu de côté, où il y a le plus d'athées, d'agnostiques, hein? Et comme par hasard, c'est là où les gens souffrent le plus, parce qu'ils n'ont pas la véritable consolation intérieure. Et c'est pour ça que l'Église baptiste de Pessac a fait cet expo Bible pour présenter aux gens, hein, la solution à leur problème, c'est de rencontrer Dieu, celui qui a fait l'homme et qui veut nous apporter la solution à nos problèmes et à nos difficultés. Hein. Quelqu'un disait ça la semaine dernière, vous savez, quand vous achetez un nouvel appareil électronique ou même un aspirateur, hein, vous montez tout ça, et puis si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Ça vous est jamais arrivé? Hein? Ah oui, oui, mais normalement, il faut lire le manuel. Hein? Mais le problème, c'est que les gens ne lisent pas le manuel d'utilisateur. Hein? Et moi, je vois souvent, ils jettent la boîte et le manuel est dans la boîte, oui, c'est dans la poubelle. Hein? Et puis, alors, ils ne savent pas s'en servir, hein? Ça tombe en panne, ils reviennent au magasin, oh, je ne suis pas content, vous êtes moqué de moi, vous m'avez arnaqué, etc. Ah bon? Mais ça marche comment cet appareil? Ah ben ça, je ne sais pas. Hein? Eh bien, oui, 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 il aurait fallu lire le manuel d'utilisateur. Hein? Eh bien, nous aussi, nous avons un manuel qui fait 1600 pages. Hein? C'est la parole de Dieu, où Dieu nous donne des conseils et des instructions pour notre vie. Et il nous dit comment être heureux. Il nous dit comment résoudre les problèmes du quotidien. Mais est-ce que les gens lisent le manuel et le mettent en pratique? Ah non, non, ils préfèrent se plaindre, se révolter, plutôt que de chercher ce que Dieu leur a dit. Dans le livre des Proverbes, vous avez un grand nombre de conseils pour la vie quotidienne, mais combien de gens autour de vous, vous pouvez faire du porte-à-porte dans un immeuble, si vous trouvez une personne qui a lu le livre des Proverbes, vous aurez beaucoup de chance. Hein? Pourtant, c'est le Proverbe Ecclésias, c'est le manuel d'utilisateur de la vie, de la sagesse, pour savoir comment se conduire dans la vie quotidienne. Mais si les gens ne veulent pas le savoir, qu'ils ne se plaignent pas, qu'ils ne trouvent pas la solution, et qu'ils se retrouvent plongés dans le malheur, même s'ils ne veulent pas le montrer, ils sont dans le malheur, et ils se soutiennent par des béquilles chimiques de l'alcool, on a oublié l'alcool, hein, la drogue, l'alcool, les médicaments, hein, pour cacher que ça va très mal en eux, et pourtant, en Jésus-Christ, la Bible nous donne le secret du bonheur. Hein, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, le verset suivant, heureux les débonnaires. Alors ça, c'est un vieux mot de français. Qu'est-ce que ça veut dire un débonnaire? Vous n'avez pas souvent rencontré des débonnaires. Alors, il y a d'autres traductions qui traduisent heureux les bons, ou voilà, ceux qui sont bons. Un débonnaire, c'est quelqu'un qui est bon et qui tout ce qu'il fait est toujours tourner vers le bien. Hein. Vous en connaissez beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et pourtant, le Seigneur a dit cela, allez-y, allez de l'avant, soyez heureux car je suis avec vous. Hein. Mais dans la société actuelle, si quelqu'un est bon, s'il est toujours tourné vers le bon, qu'est-ce qui va lui arriver? Hein, il va lui arriver des histoires, hein, il va se faire rouler. Hein, il va, hein, si vous êtes bon et que vous allez à la banque, eh bien, ils vont essayer de vous vendre un truc qui ne sert à rien. Si vous allez vous voir votre assureur, il va vous vendre une assurance vie, hein, etc. Hein, eh bien, être bon, hein, c'est quelque chose qui est difficile dans le monde actuel. Et pourtant, Jésus a dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Parce que ce que nous oublions, c'est qu'il y a ce royaume-ci, mais il y a le royaume d'après. Hein? Nous avons l'impression que la vie terrestre est longue. Vous avez vécu combien d'années, madame? Oui. Plus de 80 ans, voilà. Est-ce que c'était long? Non, voilà, hein. C'est ce que la Bible dit à Moïse, qui avait bien plus que ça, il a dit, nos années s'envolent, elles s'enfuient, hein. Mais nous avons l'impression que nous vivons longtemps, mais notre vie n'est rien du tout à côté de la vie d'après. Il y a une autre vie après, hein. Et Jésus a promis que ceux qui sont bons vont hériter la terre, hein. Il y a une bénédiction, il y a une récompense pour ceux qui sont bons à l'égard des autres. Et puis encore ici, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Hein. Alors dans le monde actuel, hein, si vous avez faim et soif de justice, vous allez souffrir. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans le monde dans lequel nous vivons. Hein. C'est un monde rempli d'injustices, mais c'est normal puisque le monde a rejeté Dieu. Hein. Mais le Seigneur nous appelle à nous faire confiance en lui. Et il va nous rassasier, donner la vraie justice. Parce que c'est quoi la vraie justice? Oui, la droiture, mais il y a plus fort que ça, la vraie justice. Plus fort que la droiture. Là on se rapproche, oui, la rédemption en Christ, qui dit mieux? Hein? Hein, la justification par la foi, hein? Ça c'est la plus grande de toutes les justices, hein? C'est la justice, parce que nous plaignons des injustices, je suis victime d'une injustice, je veux bien croire que vous êtes victime d'une injustice, mais vous aussi vous pratiquez l'injustice, oui ou non? Hein? Sinon, vous n'auriez pas besoin du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et grâce à Dieu, la Bible nous dit en Romains et en Galates que nous sommes justifiés par la foi. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Hein? Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais j'aimerais vous donner l'exemple d'un homme, un Allemand qui a vécu il y a plus de 500 ans. Qui a écrit un livre qui est en bas aussi dans l'Expo Bible. Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est? Hein, Martin Luther, hein, pas Martin Luther King, hein, Martin Luther, hein, voilà. Et donc, sa traduction, hein, c'est la traduction de base de la langue allemande, et vous l'avez en bas, là, dans une édition de 1855, je crois, ou même plus ancien que ça. Hein. Et donc, c'est un homme qui a fait des études de droit, et il a eu un doctorat de droit. Hein, et il était extrêmement fort en droit, il n'y a pas de souci, un juriste de haut niveau. Mais un jour, il traversait la campagne, la nuit, et il y a eu un orage absolument terrible, et il a pris un coup de tonnerre juste à côté de lui, l'arbre à côté de lui a pris feu, et il a cru qu'il allait mourir. Alors il a crié à Dieu, « Dieu, sauve-moi, si tu me sauves, je deviendrai moine. » Alors Dieu l'a sauvé, et bon, il a, tout juriste qu'il était, il est allé au séminaire, et il est devenu moine, mais comme il était un très bon moine, Eh bien, on l'a poussé un petit peu et il est devenu prêtre. Et quand il est devenu prêtre, je raccourcis, hein, parce qu'il y a plein de choses à raconter sur Martin Luther, hein, mais quand il était moine et quand il était prêtre, il était toujours malheureux. Toujours malheureux. Il se sentait toujours persécuté par Dieu. Il sentait toujours que sa conscience n'allait pas. Pourquoi ? Vous n'avez pas lu sa biographie? Non, ça c'est après les hérésies, oui, mais on n'y est pas encore. Là, c'est dans sa propre conscience. Pourquoi? Oui. Exactement. Parce que c'est un homme qui lisait la Bible comme peu d'hommes la lisaient, et il prenait ce que Dieu disait à la lettre. Hein. Et quand, si vous faites ça avec le point de vue d'un juriste, et vous prenez la Bible comme une loi, eh bien, vous êtes condamné d'avance. Hein, parce que dans la Bible, les exigences morales et spirituelles de Dieu sont absolument parfaites. Hein. Et lequel d'entre nous est parfait? J'ai oublié de vous demander en rentrant tout à l'heure. Hein. C'est lequel qui est parfait? Celui qui se cache là-bas? Hein. Eh bien non, hein, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui est parfait. Et Martin Luther, malgré sa rigueur morale indiscutable, hein, mais il était loin d'être parfait. Tous les jours, il allait voir, vous vous rendez compte, hein, tous les jours, il allait voir son confesseur et il confessait ses péchés. J'ai encore fait ça, j'ai convoité, j'ai méprisé, j'ai fait preuve de paresse. Et c'est vrai, est-ce que tous les jours, nous ne faisons pas cela? Oui ou non? Hein? Si nous étions conscients de la gravité du péché comme lui, l'était, eh bien nous serions vraiment dans un état réel de repentance devant Dieu. Enfin, il était pleinement conscient de la gravité de son péché et il en était absolument malheureux et dévasté parce que il n'avait pas encore pris conscience de la justification par la foi. Et donc il était encore sous la loi et beaucoup de nos chers amis catholiques sont encore sous la loi, c'est-à-dire qu'ils croient que c'est en faisant de bonnes œuvres, c'est en faisant des pèlerinages, c'est en donnant de l'argent à l'Église, qu'ils vont obtenir le pardon de Dieu, en faisant des prières à Marie, en allant se confesser, lui se confesser tous les jours. Hein. Et finalement, qui c'est qui en a eu assez? Hein, je vous passe les détails, il est allé à Rome, il est revenu, tout un tas de choses. Qui c'est qui en a eu assez de ça? C'est son confesseur. Il n'en pouvait plus, son confesseur. Tous les jours, il venait se confesser, il en pouvait, et il savait bien qu'il avait raison, qu'il avait commis des péchés, mais finalement, le confesseur, au bout de plusieurs années, lui a dit, mais il faut que tu vives maintenant sur la grâce de Dieu, que tu t'appuies sur la grâce de Dieu, le juste vivra par la foi. Et ça a été une révélation pour Luther, lui qui connaissait déjà quasiment la Bible par cœur, il n'avait jamais vu cette grande réalité de la vie, de la Bible, que le juste vivra par la foi. Et sa vie a été transformée et métamorphosée par la foi dans la grâce de Dieu qui nous donne l'assurance du pardon de nos péchés. Et ce n'est pas en se confessant à un homme que l'on trouve le pardon des péchés, c'est en se confessant à Dieu directement. Mais non seulement Dieu nous promet le pardon, mais il a le pouvoir de nous pardonner. Parce que si vous venez tous, autant que vous êtes à la fin de la réunion, vous confessez à moi, est-ce que moi je peux vous pardonner quoi que ce soit? Je suis aussi pécheur que vous, je ne peux rien vous pardonner. Ce n'est que Dieu qui peut vous pardonner. Et quand Luther a pris conscience de ces choses-là, il a été libéré. Et ensuite, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Je ne vais pas vous raconter toute sa vie, hein, mais sa vie a été métamorphosé par la justification de la foi. Par la foi, il avait faim et soif de justice. Il a été. J'ai fait ça hier aussi. Excusez-moi. Ah là 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 là, je suis fâché avec ces appareils. Voilà. Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà. Il avait faim et soif de justice et il a été rassasié. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire qui s'est passé dans sa vie. Eh bien, la Bible dit qu'il est heureux. Alors, on n'a pas le temps de les voir tous, mais je pense que vous commencez à comprendre la définition du bonheur d'après Dieu et d'après la Bible. Ce n'est pas de rester chez vous dans une contemplation, dans un état de béatitude, ou de vous enfermer dans un monastère ou dans un couvent, mais c'est vraiment de faire une rencontre vivante et personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, et de voir la différence dans votre vie. Heureux, on va simplement lire ce qui nous reste. Heureux les miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire, la miséricorde? J'aime bien les vieux mots français. Qu'est-ce que c'est, la miséricorde? Ah oui, 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 mais c'est plus que le pardon. Ça veut dire une très grande patience, une très grande patience. La prochaine fois qu'un policier vous arrête, vous lui dites, est-ce que vous savez ce que c'est la miséricorde, Je crois qu'il ne sait pas lui ce que c'est, mais Dieu le sait, Dieu le sait, il a une très grande patience envers nous, et quand nous confessons nos péchés, il nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Mais là, ce n'est pas seulement la miséricorde de Dieu, il s'agit de nous d'être miséricordieux à l'égard des autres. Alors là, est-ce que vous êtes miséricordieux à l'égard de votre prochain? C'est une autre affaire, ça. Une très longue patience envers ceux qui vous énervent, ou vous irritent. Eh bien, ça, c'est la miséricorde. Et Jésus dit, heureux, en marche, à l'avant, allez-y les miséricordieux, car vous aussi, vous obtiendrez miséricorde. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ensuite, ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux dont le cœur n'est pas double, le cœur n'est pas trouble, le cœur n'est pas frappé de duplicité, mais le cœur pur, eh bien, ils verront Dieu face à face. Et nous avons un cantique ici dans « À toi la gloire, voir mon Sauveur face à face ». Et ça, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Et puis, le dernier, heureux. Alors, vous allez me dire où il est ce verset. Il est dans un endroit très important, mais je ne sais pas si vous savez. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Où est-ce que c'est écrit ça? Dans un endroit que vous connaissez tous. Je vais vous aider, c'est écrit en anglais tout autour. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Où est-ce que c'est écrit ça? Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous le saviez ça? L'architecte, c'est... c'est un architecte d'origine allemande, son nom me reviendra, mais vous savez, il a fait ce grand immeuble, et vous avez à l'intérieur l'ONU à New York, et puis vous avez à l'intérieur, quand vous arrivez, vous avez un verset biblique, et puis à l'intérieur du Conseil de sécurité, c'est écrit, en gros, heureux, vous regarderez la prochaine fois que vous verrez les délibérations à la télévision, vous le verrez écrit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et c'est le but des Nations Unies, de procurer la paix. Est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont essayé, on ne peut pas leur enlever qu'ils ont essayé. Mais est-ce qu'ils ont réussi, c'est une autre affaire. Dans le monde, il y a de plus en plus de guerres et de conflits. C'est normal, et on le verra demain. Demain, on parlera de la prophétie. Eh bien, Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ce ne sera pas encore la fin. C'est pas, on n'entre pas dans une ère de paix, on entre dans une ère de guerre. Il faut s'y habituer. Remercions Dieu que ce n'est pas ici, que c'est ailleurs, mais ne soyons pas dans l'illusion que les choses vont s'améliorer. Elles ne vont pas s'améliorer. Ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Heureux, verset 10, qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Qui est-ce qui veut lever la main et dire « Je suis heureux quand je suis persécuté » Hein? Eh bien, moi, j'ai rencontré des frères et sœurs, justement, on en parlait tout à l'heure des pays de l'Est, des anciens soviétiques, hein, qui ont passé des années en prison, des années, parce que simplement, ils avaient prêché l'évangile ou partagé leur foi, et bien, en prison, malgré les privations, malgré le froid, la difficulté, eh bien, ils ont été heureux. Pourquoi ? Parce que le bonheur ne dépend pas, et ça, c'est un grand problème que nous avons dans notre société, mais je n'entrerai pas dans un débat politique. Hein. Le problème de l'homme, ce n'est pas de changer les conditions dans lesquelles il est. Hein. Vous pouvez être dans des conditions merveilleuses, hein, les plus grands milliardaires de la Terre, vous pouvez aller leur demander, est-ce que vous êtes heureux ? Ah, maintenant, il manque encore ça. Hein. Et vous pouvez rencontrer une personne qui n'a qu'une case, hein, moi j'en ai rencontré en Afrique, ils n'ont qu'une case, c'est tout, très peu de meubles à l'intérieur, est-ce que vous êtes heureux ? Oui. Hein. Le bonheur, ce n'est pas la situation sociale dans laquelle on est, ce n'est pas ce qu'on a, ce que l'on possède, le bonheur, c'est de connaître le Seigneur, quelle que soit la situation, d'être dans la présence de Dieu. Et ceux qui sont persécutés, les chrétiens persécutés, il y a une promesse spécial de la part de Dieu, je serai avec toi, même lorsque tu seras amené devant le tribunal. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus quand vous serez amené devant les tribunaux, hein, ne préméditez pas votre défense, je vous donnerai alors même ce que vous aurez à dire, car le Seigneur est avec ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent, il est avec ceux qui sont dans les tribunaux, et il est vraiment toujours présent. Hein. Où j'en suis avec le temps, Bob ? J'ai tué le temps. Alors juste pour résumer la fin, et on reprendra celle demain, hein. Est-ce que vous savez où dans la Bible il y a encore plein de béatitudes? Oui, c'est dans l'Apocalypse. Hein. Vous pensiez qu'on pouvait être heureux en lisant l'Apocalypse, hein. Il y en a 7 ou 8 dans l'Apocalypse et elles sont absolument extraordinaires. Je vous les réserve pour demain. Et demain, nous allons parler aussi des temps de la fin, hein, de comment ce que la Bible annonce pour les temps à venir, les temps de la fin, la prophétie biblique, tout ce qui s'est accompli, tout ce qui va s'accomplir. Et demain, on aura en plus avec ça un diaporama, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'images de l'Apocalypse, de la Nouvelle Jérusalem, comment j'ai eu les photos, tout ça, vous verrez. Hein. Mais vous verrez, je vous montrerai tout ça demain en diaporama avec la conférence sur les choses à venir. Voilà. Mais tout à l'heure, il y en a une autre, mais je laisse la parole à M. Bixby.